Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être là. Je remercie Françoise de m'inviter à approfondir sa présentation, que je ferai tant bien que mal. D'abord, on va allumer le pointeur, ça sera mieux. Voilà, tant bien que mal. Alors, d'habitude, les personnes qui parlent après Françoise, ils approfondissent le thème avec leur propre recherche assez profonde sur le sujet. Moi, j'ai plutôt papillonné pour la simple raison que finalement, je n'ai pas travaillé récemment sur le sujet de la friction dynamique et l'évolution dynamique, qui va être mon sujet. Donc, je vais un peu papillonner autour. Donc, à la fin, vous n'aurez pas une vision précise, vous aurez une vision plus large et superficielle. Voilà. Alors, nous avons donc plusieurs types de systèmes. Françoise les a montrés. J'espère que vous voyez le bas de l'écran. Vous avez les grands amas de galaxies. Vous avez les groupes compacts. Donc là, je montre ce que j'ai renommé le quartet de Stéphane, grâce à mon fils Elliot, qui est allé photographier le système derrière la galaxie d'avant-plan. Donc il a pris une fusée, il est allé bien au-delà, et puis il a pu photographier comme ça. Mais vous allez me dire, mais non, parce que les étoiles qu'on voit ici sont les mêmes que dans la Voie lactée. Donc il a remis les étoiles de la Voie lactée pour faire son Photoshop, au fait. Bon, voilà. Et puis ici, donc, on peut montrer en effet que même dans la dynamique classique, sans monde, avec Newton, on arrive à peu près à reproduire les observations avec les simulations, même si je ne vais pas rentrer dans les détails de cela. D'ailleurs, je parlerai assez peu d'observations, malheureusement. Alors, on va voir si je peux avancer tout seul, voilà. Donc, les motivations des gens qui travaillent sur l'évolution dynamique de l'univers sont multiples et très ambitieuses. Donc, d'abord, on veut vraiment tester les modèles standards et différents types de modèles standards pour pouvoir soit les confirmer, soit trouver qu'il y a un problème. Par exemple, Françoise a beaucoup travaillé sur le changement du modèle standard de dynamique pour pouvoir, en introduisant une hypothèse que j'appelle l'hypothèse monde, et elle a montré assez brillamment que l'hypothèse monde peut expliquer beaucoup de phénomènes qu'on explique assez mal par le modèle standard. Donc le premier modèle standard qu'on peut tester à grande échelle, c'est la physique des particules, et aussi à petite échelle, donc à petite échelle avec la nature de la matière noire. Par exemple, Françoise a parlé de système cuspidé ou à cœur. Et si la matière noire est auto-interactive, elle devrait à ce moment-là supprimer les cœurs. Et donc on peut essayer de modéliser avec la dynamique newtonienne pour voir s'il y a des cœurs ou pas, ou par la présence d'amas globulaires dans les petites galaxies, comme a mentionné Françoise. D'autre part, à grande échelle, on peut essayer de contraindre les nombres de saveurs de neutrinos, qui sont typiquement 3 dans le modèle standard. Après, en cosmologie, il y a les conditions initiales, qu'on appelle le lambda cold dark matter, le lambda CDM, qui donne le spectre de fluctuation primordiale de densité, que Françoise a mentionné et que je mentionnerai aussi rapidement. On peut tester donc la gravitation, qui est donc Newton, et puis plus généralement la relativité générale d'Einstein. Et puis, on peut tester toute la complexité de la formation et de l'évolution des galaxies. Par exemple, le fait que les galaxies sont riches en gaz et que le gaz est dissipatif, on pourrait tester l'efficacité de la formation d'étoiles, l'efficacité des explosions d'étoiles et l'efficacité des outflows, des jets de trous noirs supermassifs. Bien. Alors, je vais vous parler de cela de la manière suivante. Donc, je vais vous faire quelques rappels de dynamique à un niveau que vous avez trouvé enfantin. Après, je vais faire un petit tutoriel de cosmologie. Je vous parlerai de l'évolution dynamique à grande échelle assez brièvement. Je mentionnerai les halos de matière noire pour vous donner une référence. Je parlerai beaucoup d'évolution dynamique à petite échelle, mais en parlant des processus dynamiques, en particulier la friction dynamique. Et je m'appresenterai un peu sur les orbites des galaxies dans les groupes et amas, et dans les galaxies en fusion, en interaction, dans les amas ou dans les groupes. Alors, donc, quelques rappels de dynamique. Eh bien, on va se remettre au XVIIe siècle, à l'époque de Newton. Donc, Newton a remarqué que la force qui nous tient sur la Terre et qui fait tomber les pommes, par exemple, est la même que la force qui retient la Lune autour de la Terre et qui ne la fait pas partir loin de nous. Et pour comprendre tout cela, donc il s'est mis à réfléchir en termes de force et d'accélération, et il a montré que l'accélération, qui est donc la variation de la variation de la position, est égale à la force sur la masse. Donc ça, c'est très important. Et pour ça, il a dû inventer tout le calcul différentiel et intégral, ce qui est un accomplissement absolument incroyable, qu'il a fait indépendamment de Leibniz en même temps. Et bon, alors aujourd'hui, nous vivons sur la Terre, nous avons une accélération de la pesanteur qui est à peu près constante, donc les calculs sont faciles. Mais quand on va au-delà, par exemple, quand on gère la Lune, c'est plus compliqué, et donc Newton a postulé que les forces d'attraction gravitationnelle sont proportionnelles au produit de leur masse, des masses des objets, et inversement proportionnelles au carré de leur séparation. Bien, et avec ça, il a pu montrer que cela explique parfaitement les orbites elliptiques des planètes du système solaire et les lois de Kepler. Alors, troisième chose que je voulais dire sur la dynamique, c'est que on peut parler d'énergie et de moment angulaire, donc Françoise en a parlé longuement, et donc l'énergie et le moment angulaire, a priori, sont conservés. Donc, l'énergie qui est conservée, c'est quoi ? C'est l'énergie mécanique, qui est à la fois la composante orbitale plus une composante thermique, plus une composante... Il y a la mécanique, il y a la thermique, il peut y avoir la magnétique, il peut y avoir l'énergie sous forme de particules à haute énergie, que je n'ai pas mise là. Et puis, si tout ça n'est pas conservé, c'est parce qu'il y a une dernière forme d'énergie qui est transmise sous forme de rayonnement. Alors maintenant, je vais revenir à la mécanique. Donc, l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, donc l'énergie du mouvement plus l'énergie à travailler contre les forces. Et puis... quand vous avez un système en équilibre dynamique, en moyenne dans le temps, on a cette relation dite théorème du Viriel qui nous dit que 2 fois l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle égale 0. Je vous invite à faire le calcul pour l'orbite de la Terre autour du Soleil, c'est très facile, pour vérifier que ça suit le théorème du Viriel. Après, le moment angulaire est intéressant parce que sa variation dans le temps est égale au moment des forces, ce que j'appelle torque, comme disent les Anglais, parce que je trouve que c'est plus parlant. D'ailleurs, le moment angulaire, vous vous dites moment cinétique, donc moi je l'appelle moment angulaire, comme Françoise d'ailleurs, on est déformé par notre travail, mais je trouve que moment cinétique, ça ne me dit pas que le moment angulaire, c'est la capacité à un objet à tourner sur lui-même, quoi. C'est le spin, ou c'est le moment où c'est soit le spin de la Terre autour d'elle-même, ou la révolution de la Terre autour du Soleil, ça c'est du moment angulaire. Bien, alors je continue. Tutoriel de cosmologie. Alors, nous avons un univers qui commence à partir d'un Big Bang, donc une singularité, et l'univers est en expansion, et durant cette expansion, la température de l'univers va diminuer, et comme la température régit les transitions, vous allez avoir les différentes transitions qui vont apparaître, les premiers quarks, les premiers noyaux, les premiers atomes, dont j'en ai parlé tout à l'heure, les premières étoiles, et là, les premières galaxies. Et puis, vous remarquez aussi qu'il y a eu une expansion très rapide au début, ce qu'on appelle l'inflation. Et puis, aujourd'hui, nous vivons une deuxième période d'inflation qui n'est pas la même que la première, qui est beaucoup plus lente et qui est probablement une origine différente et qui va donc affecter l'évolution dynamique des structures. Bien. Alors, revenons à l'époque, 380 000 ans après le Big Bang. Donc, c'est l'époque où... les atomes se forment. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant cette époque, vous aviez des protons, des électrons qui se promenaient indépendamment, et les particules de lumière, les photons, ils rentraient souvent en collision avec ces électrons libres qui étaient nombreux, et donc ils avaient un libre parcours moyen assez court. Et puis, au moment, à 380 000 ans après le Big Bang, quand la température a atteint à peu près 3000 degrés, en refroidissant donc, à ce moment-là, qui dit température qui baisse, dit les vitesses caractéristiques des objets baissent. Donc les électrons bougent moins vite et commencent à être capturés par les protons. Et tout à coup, les photons ont le champ libre. Et donc, nous pouvons voir jusqu'à cette époque-là, avec les meilleurs télescopes, mais on ne peut pas voir plus loin parce que l'univers est opaque avant cette époque. Donc ce qu'on voit avec, par exemple, la mission Planck, après Kobe et WMAP, c'était une jolie carte des fluctuations de température de ce fond cosmique micro-ondes qui est donc avec une lumière à 3000 degrés que nous percevons à 2,7 Kelvin, donc 2,7 degrés au-dessus du zéro absolu, avec des fluctuations de densité qui dépendent de l'échelle, mais qui sont de l'ordre à peu près de 1 pour 1000 de densité. Et alors, ce spectre de fluctuations de densité a une forme assez complexe. La courbe, c'est le modèle standard, et les points, c'est les observations. Et ce spectre nous renseigne que la position du premier pic nous dit que l'univers est à peu près plat en géométrie, et la position du troisième pic par rapport au deuxième nous dit que l'univers est dominé par la matière noire. Et c'est une des difficultés de monde d'expliquer pourquoi on a ce troisième pic aussi haut que le deuxième pic. Bien. Donc on peut faire le budget de masse de l'univers, et le budget de masse nous dit donc que l'univers est dominé par la matière noire. Après, vous avez de la matière ordinaire, et on peut retrouver ces pourcentages à peu de choses près en utilisant d'autres méthodes astrophysiques qu'en regardant le fond diffus cosmologique qui émet à 3 degrés au-dessus du zéro absolu. Et donc, on a une concordance sur les paramètres cosmologiques. Aujourd'hui, on est assez content de nous. Sauf que notre univers est dominé par de la matière noire, mais on ne sait pas ce que c'est, et on ne l'a pas détecté malgré nos efforts à le chercher. D'accord ? Bien. Mais pire que ça, si on fait le budget d'énergie de l'univers, on trouve que la matière noire n'est qu'un quart du budget, et la matière totale à peu près 30%, parce qu'il reste 70% du budget d'énergie aujourd'hui qui est sous forme d'énergie qui va accélérer cette expansion de l'univers. D'accord ? C'est cette deuxième période d'inflation. Et on ne comprend pas très bien, ou pas du tout, pour être plus modeste, d'où vient cette énergie noire, même si on a quelques idées simples. Voilà. Et pire, c'est que les théories de gravitation quantique nous prédisent des niveaux de l'énergie noire qui seraient 60 à 120 ordres de magnitude plus grandes que ce qu'on observe, ce qui est déjà grand. Et déjà, un ordre de magnitude, c'est beaucoup, alors imaginez 60 ou 120 ordres de magnitude. Bien. Alors maintenant, regardons l'évolution dynamique à grande échelle. Alors maintenant, j'ai le plaisir de vous montrer quelques simulations pour vous illustrer cela. Et donc là, je vous montre une simulation de matière noire seulement. Vous voyez l'expansion de l'univers. Et vous avez vu une certaine périodicité au début, tout simplement parce qu'on utilise pour ces simulations des boîtes cubiques qui sont périodiques aux frontières. Et donc, comme ça, vous avez vu au début plein de boîtes. Et là, vous ne voyez plus qu'une seule boîte. Et d'autre part, ce que vous voyez là, c'est que l'univers n'est pas du tout simple. Il est sous forme de vide, de nappes, de filaments, et que dans ces filaments, il y a des nœuds qui sont les halos de matière noire, dont les plus gros, ici, correspondent à des gros amas de galaxies, et dont les tout, tout petits sont peut-être des petits groupes, voire même des halos de matière noire qui correspondraient à des galaxies de la masse de la Voie lactée. Alors maintenant, je vais vous montrer la même simulation dans des coordonnées qui sont comobiles avec l'univers. Alors là, donc, tout est figé. Donc là, on voit la boîte de simulation de tout à l'heure. Au fait, la vraie boîte de simulation était plus grande que la boîte orange que j'ai mise là. Et donc là, vous avez l'impression de nouveau que les vides s'accroissent et que les régions denses s'effondrent sur elles-mêmes. D'accord ? Alors, je vais revenir en arrière pour cette simulation. Voilà. Et au début, on part de conditions quasiment homogènes. Et donc, on voit une instabilité gravitationnelle se créer parce que les régions denses vont attirer la matière autour d'elles et vont devenir encore plus denses. Et les régions moins denses, ben, elles vont voir leur matière partir vers les régions denses. Donc, les vides vont devenir de plus en plus vides et les régions denses, elles vont devenir de plus en plus denses. C'est ce qu'on appelle l'instabilité gravitationnelle. Alors, on peut essayer de la quantifier, celle-là. Alors, déjà, je vais... voilà. Et donc, si vous regardez l'évolution des surdensités dans l'univers, ben, au début, on part de la recombinaison où les fluctuations de densité sont à peu près de l'ordre de 1 sur 1000, ça dépend de l'échelle. Et donc, on est dans une évolution qui est assez simple. On peut la traiter avec une mathématique dite linéaire qui est assez simple. Et donc, c'est très sympa, on peut faire des calculs de tête. Et puis, il arrive un moment où la densité croît, la surdensité croît, jusqu'à ce qu'elle atteigne un niveau d'à peu près 1, ça veut dire que les fluctuations de densité deviennent aussi importantes que la densité elle-même. Et à ce moment-là, on ne peut plus faire les calculs avec les simples linéaires, avec les calculs linéaires, et on a une évolution non linéaire qui devient extrêmement rapide et on arrive jusqu'à l'effondrement des structures et puis après à un équilibrage. Et alors, un petit aparté pour dire qu'on peut faire des calculs perturbatifs quand on est dans la zone à peu près de transition et ça nous aide beaucoup pour comprendre la dynamique de l'univers à grande échelle et de la comparer aux observations. Et en particulier, il y a toute une école française qui a été très active là-dessus, autour de François Boucher, Stéphane Colombi et Francis Bernardo, qui est maintenant le directeur de mon laboratoire. Bien. Alors, galaxies et halos de matière noire. Donc, quand on prend une simulation cosmologique, là, c'est à un instant à z égale 0, donc aujourd'hui, parce que pour ceux qui sont venus après et qui n'assistent pas au cours, nous utilisons une échelle de temps qui va à l'envers. D'accord ? Donc z égale 1000, c'est il y a longtemps, et z égale 0, c'est aujourd'hui. Bien. Alors, donc là, vous avez une grande boîte, une structure de l'univers à grande échelle, et là, je prends un amas ou un grand halo, et quand je le zoome, en fait, c'est une autre simulation, on voit que le halo qui est là, que je définis avec un certain rayon dont je parlerai dans un instant, est composé de plein de petits sous-halos. Qui sont un peu self-similaires au halo lui-même. En profil de densité, j'en parlerai dans un instant. Alors, comment est-ce qu'on calcule ce rayon caractéristique du halo lui-même ? Comme a dit François, ce halo, il est calculé au rayon où on pense qu'il est à peu près en équilibre dynamique. Ça veut dire que au bord de ce halo, il ne sent plus ni l'expansion ni l'effondrement. Donc la vitesse radiale moyenne est à peu près nulle. C'est assez difficile à estimer, et la théorie sous-jacente qu'on emploie, à mon avis, n'a pas de fondement, mais elle donne à peu près les bons résultats. D'accord ? Et donc, aujourd'hui, on dit qu'il faut que la densité moyenne soit de l'ordre de 300 fois la densité de l'univers, et dans le passé, c'était 200 fois. Bien, mais tout ça, c'est à un facteur de près, voire pire, donc il ne faut pas trop s'attacher sur ces chiffres. Par contre, le nombre de sous-halos est quand même surprenant parce que le nombre de sous-halos prédits pour la Voie lactée, par exemple, c'est de plusieurs centaines alors qu'on ne connaît qu'une trentaine de satellites à notre Voie lactée. Et donc, il y a des gens qui pensent que ça pose beaucoup de problèmes, que ça pourrait invalider les conditions initiales lambda-CDM ou que ça pourrait invalider la gravitation ou peut-être que c'est dû à l'astrophysique, donc le modèle standard nous dit c'est normal parce qu'au-dessous d'une certaine masse de halo, les galaxies ont beaucoup de mal à se former. Elles ont du mal à se former très rapidement parce qu'elles ont le gaz a trop d'entropie pour pouvoir tomber au fond des puits de potentiel. Bien. Alors, je continue. Alors, je parle rapidement des profils de densité. Donc, les profils de densité, on peut les mesurer dans les simulations cosmologiques et on trouve des profils de densité qui vont en 1 sur la distance au centre, qu'on appelle R, dans les zones internes, et en 1 sur R cube dans les zones externes. Alors, c'est un profil de densité un peu pervers, parce que ça veut dire qu'on a une singularité au centre, et en plus, quand on calcule la masse, quand on intègre 4pi R carré rho de R, dr, on a une divergence logarithmique à l'extérieur, en masse. Alors, il se trouve que les simulations ont été mesurées entre un rayon minimum qui est de l'ordre de quelques fractions de pourcent du rayon de Viriel et à peu près un ou deux rayons de Viriel. Au-delà du rayon de Viriel, je vais vous raconter, il se passe des choses intéressantes aussi. Après, donc je vous montre la forme, et puis après, on peut remarquer qu'en projection, ce modèle qu'on appelle NFW, pour les initiales de ses auteurs, ressemble beaucoup au modèle de Sersich que Françoise vous a montré, est un bon représentant des galaxies elliptiques. Sauf que ça ne marche que pour un indice particulier de 3. D'accord. Deuxièmement, les mêmes Navarro, Frank et White qui ont conçu ce premier modèle NFW ont réitéré et ils ont remarqué qu'un deuxième modèle qui est la généralisation 3D du modèle de Sersich, qui lui est un modèle 2D, donne une représentation encore meilleure. On voit ici que les résidus par rapport au profil de densité sont meilleurs que le modèle NFW. Pour le profil de densité des halos de matière noire dans les simulations cosmologiques. Après, quand vous ajoutez toute la physique dissipative et de l'hydrodynamique et quand vous ajoutez la physique, l'astrophysique, les effets de rétroaction par les explosions de supernovae et les jets de noyaux actifs, ça change les profils, surtout à l'intérieur. Mais ça nous donne quand même, c'est quand même utile pour les amas de galaxies parce que les amas de galaxies, on vérifie que la distribution de gaz chaud qui émet en rayon X, comme a mentionné Françoise, elle est cohérente avec le profil NFW, ainsi que la distribution des galaxies, je vous en parlais tout à l'heure, tout de suite. Donc, on voudrait savoir qu'est-ce qui se passe au-delà d'un rayon de Viriel, parce que quand vous allez au-delà du halo, vous allez commencer à attraper les autres halos. Et donc, vous ne mesurez plus, par exemple, quand vous regardez la distribution en nombre, la densité en nombre des galaxies autour d'un amas, vous ne mesurez plus l'amas, vous mesurez les autres amas. Mais on aimerait bien savoir, quand même, mais quel est le profil de densité intrinsèque de l'amas, du premier amas, du gros amas? Et ce n'est pas si simple à trouver la réponse à cette question, pour la simple raison qu'il faut pour ça décider d'assigner chaque galaxie à un amas unique. Et l'amas unique, c'est logiquement l'amas le plus proche en unité du rayon du Viriel de cet amas. D'accord ? Mais il arrive une autre variable qui est quelle est la masse minimum de groupe ou d'amas auquel on va assigner des galaxies pour trouver l'amas le plus proche, le groupe ou amas le plus proche. Si vous prenez le groupe ou amas, si vous prenez une masse minimum très basse, et si vous avez... moi, je suis un gros amas et mon cousin Guy serait une petite galaxie, par exemple. Je vous présente Guy. Eh bien, si la masse minimum est très basse, Guy va pouvoir s'assigner à son propre halo de matière noire. Et donc, moi, je ne vais pas le récupérer en tant qu'amas. Alors que si je mets plus haut la masse d'assignation minimale, à ce moment-là, Guy va être assigné à moi-même, il ne s'assignera pas à son propre halo. Donc, dans le premier cas, moi, j'aurai un profil de densité qui va diminuer très rapidement au-delà du rayon de Viriel. Dans le deuxième cas, il va s'étendre beaucoup plus loin. Voilà. Donc, on a fait ça sur des simulations dans l'espace réel. Donc, c'est des simulations semi-analytiques avec le dernier modèle, le dernier cri, Henriques. Et vous voyez que les profils de densité, donc là, on va bien au-delà d'un rayon de Viriel, on va jusqu'à 20. Et on voit que les profils de densité dépendent de la masse d'assignation minimale, mais globalement, quand même, on montre une étendue très forte. Et on voit que les amas continuent, et on peut le mesurer jusqu'à bien en dessous de la densité moyenne de l'univers. Et en particulier, la courbe noire, qui est la masse d'assignation du milieu, qui correspond à peu près à la masse du halo de la Voie lactée ou celui d'Andromède, que cette courbe noire, elle est linéaire jusqu'à plus de 10 rayons de Viriel. Et elle ne devait pas être linéaire, elle pouvait être aussi courbée comme un S. De plus, la pente de cette courbe noire est moins 3. Et troisièmement, quand on regarde les résidus par rapport au meilleur ajustement NFW ou NASTO, où les ajustements ne sont faits que jusqu'à 2 rayons de Viriel, on voit que les résidus de la courbe noire sont quasiment nuls jusqu'à 13 rayons de Viriel. Et ce n'est pas vrai pour le modèle NASTO qui pourtant fit mieux à l'intérieur. Bien. Alors on a fait ça aussi sur les places observables, parce qu'il ne faut jamais croire les simulations. Il faut faire ça directement sur les observations. Donc on a fait ça en noir, mais on a quand même pris les simulations pour lesquelles on a fait l'assignation, parce que l'assignation des galaxies aux amas est difficile dans l'espace observable, parce qu'il y a des distorsions de redshift. Je ne sais pas si Françoise en a parlé, mais on mesure mal les distances. On a pris les données simulées du modèle semi-analytique. On a fait l'assignation dans l'espace réel, on les a projetées, et ça, c'est les points rouges. Et les points rouges correspondent bien à la courbe rouge. Et les points rouges aussi correspondent très bien aux points noirs qui sont, eux, les observations du grand relevé SDSS. Donc ça prouve qu'on a bien fait notre assignation et ça prouve aussi que, en effet, cette fois-ci, on voit un comportement NFW jusqu'à 10 rayons de Viriel. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire encore. On est en train de réfléchir dessus. Est-ce que c'est lié aux conditions initiales de l'univers ou pas? Mais ça a des répercussions importantes parce que les gens qui construisent des catalogues de galaxies virtuelles, des catalogues virtuels de galaxies, pardon, et une façon de faire qui est très à la mode en ce moment, c'est ce qu'on appelle le HOD, Françoise en a fait référence, et dans les HOD, on avait tendance à arrêter de peupler les galaxies ou dans les halos au rayon de Viriel du halo, ou alors on allait à 2-3 rayons de Viriel. Donc dans le dernier HOD que j'emploie, qui a 1 milliard de galaxies, qui s'appelle Flagship, qui est pour la mission Euclide, dont je parlais tout à l'heure, là, j'ai vérifié jusqu'à où ils sont allés, parce que j'aurais demandé d'aller plus loin, et ils sont allés jusqu'à 7, donc c'est déjà bien. Bon, alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les halos de matière noire, ben, finalement, c'est un peu comme des icebergs. On ne voit que le haut et que les autres halos cachent tout le bas du halo qui, lui, continue. Voilà. Bien. Alors maintenant, comment ça se passe à plus petite échelle, les simulations? Donc, je vous remontre, en zoomant cette fois-ci, et toujours en co-mobile, les mêmes simulations de tout à l'heure, matière noire seule. Et là, vous voyez la formation des amas de galaxies, et vous voyez les petites structures, là, qui sont des petits groupes, là, qui sont en train de tourner autour des amas. On peut même parfois voir qu'ils subissent des effets de marée, c'est difficile à voir ici ou là, mais on peut voir des groupes qui explosent presque quand ils passent autour et qui perdent leur énergie orbitale par friction dynamique et qui finissent par tomber, et donc les amas deviennent plus gros. Maintenant, je vais vous montrer une simulation hydrodynamique. Alors, dans les simulations hydrodynamiques, les galaxies, les groupes et les amas sont à peu près les mêmes, mais les galaxies, elles, sont beaucoup plus fines. Elles ont des profils de densité un peu plus cuspi, parce que le gaz a tendance à tomber au fond du puits de potentiel, parce qu'il est dissipatif. Et là, c'est un cas où on a... Alors là, on triche, là, on arrête le compteur et on tourne, et puis après, on va remettre le compteur. On a un groupe compact de galaxies. Ça, c'est une simulation illustriste qui est publique. Vous pouvez jouer avec. Il y a une grande base de données. Et donc, vous voyez là le gaz, et le gaz est en train de créer, avec des explosions de supernova et des jets d'AGN, on voit que ce gaz est très violent. Mais au niveau des étoiles de la galaxie, ça se passe assez tranquillement. Et là, on a maintenant un groupe fossile qui devient quasiment une elliptique géante isolée. Bien. Alors, quels sont les processus dynamiques qui nous aident à comprendre cela? Je regarde ma montre. Donc, on va commencer par les choses simples. Quel est le temps de traversée d'un système? Ben, le temps de traversée d'un système, c'est la taille du système divisée par la vitesse caractéristique des objets dans le système. D'accord, ce qu'on appelle la dispersion de vitesse avec la lettre sigma, parce que sigma en mathématiques, c'est la dispersion, ou l'écart type, V. Bon. D'autre part, l'écart type de vitesse est relié au rapport masse sur rayon. D'accord, G est la constante de Newton, et la constante de vent sans dimension, on voit à peu près ici à peu près 1/2. Alors après, donc, on peut mettre cette deuxième équation dans la première pour trouver, donc, pour un système à peu près autogravitant, quel va être le temps caractéristique de traversée, ce qu'on appelle le temps dynamique cette fois-ci. Et on voit, enfin, vous pouvez imaginer, que ça va comme la densité moyenne à la puissance moins 1/2. Donc plus un système est dense, plus les temps caractéristiques sont courts. Ça, c'est la règle fondamentale de la dynamique. Et alors, quand vous calculez ce temps au rayon de Virgil, en supposant pas des orbites circulaires, là, mais là, des orbites un peu caractéristiques, vous trouvez typiquement un quart de l'âge de l'univers. Si vous faites de la chute libre, le temps de chute libre, c'est pareil. Et si vous regardez le temps d'effondrement cosmologique, donc le temps qu'une fluctuation de densité dans l'univers primordial met à croître en densité et se défaire de l'expansion de Hubble et à s'effondrer, là, ce qui compte, ce n'est pas la densité moyenne de la structure, mais c'est la surdensité moyenne. Donc la densité moyenne moins celle de l'univers qui sert de référence, toujours la puissance moins 1/2. Bien. Après, on peut regarder, donc je crois que Françoise en a parlé, tu as dû parler de la relaxation dans un autre cours, mais je vais aller très rapidement. Donc on peut regarder comment les trajectoires sont diffusées. Par exemple, si je suis une étoile ou une particule de masse me promenant dans une mer de particules de masse, je vais avoir des interactions avec les uns, avec les autres, je vais être dévié à droite, je vais être dévié à gauche, je vais avoir des échanges d'énergie avec les autres particules, et tout cela va faire que je vais oublier mes conditions initiales. Je vais oublier ma direction initiale, et je vais oublier mon énergie initiale. D'accord ? Donc Chandrasekhar a montré que le temps de relaxation, il a écrit une formule très compliquée, mais si on l'écrit de façon simple, le temps de relaxation peut s'écrire en fonction du temps dynamique que multiplie le nombre de particules divisé par son logarithme. D'accord ? Donc, pour un système comme une galaxie elliptique, où vous avez 100 milliards d'étoiles ou 1000 milliards d'étoiles, pour une galaxie elliptique géante, le N est immense, le temps dynamique fait déjà quelques gigaons au maximum, et même au centre, il va faire peut-être quelques méga-ans, bon, quelques millions d'années, mais quelques millions d'années fois 10 puissance 11, ça fait beaucoup d'âge de l'univers, puisque l'âge de l'univers, c'est 14 milliards d'années. Et donc, néanmoins, les amas globulaires, que Françoise a mentionné aussi, qui est, par exemple autour de la Voie lactée, les amas globulaires, eux, ont des temps de relaxation à deux corps plus courts que l'âge de l'univers. Et donc là, on s'attend à ce que ces échanges d'énergie conduisent à une équipartition d'énergie et à une ségrégation de masse. Donc les particules les plus massives, par conservation d'énergie cinétique, vont se retrouver à avoir des vitesses plus faibles et avoir des rayons plus faibles. Et donc on va trouver les objets massifs en bas, au fond des structures. Par contre, pour les galaxies elliptiques, donc on comprend, et donc Françoise l'a mentionné, qu'il faut une relaxation violente. Et cette relaxation violente est due au fait que si vous écrivez quelle est la variation temporelle de l'énergie mécanique dans un système où le potentiel varie avec le temps, eh bien vous trouverez que cette variation est égale à la variation intrinsèque du potentiel dans le temps. Donc tant que le potentiel est stable, l'énergie est conservée, mais si le potentiel n'est pas stable, comme c'est le cas dans un effondrement, ou encore pire, dans une fusion, où là on commence à avoir le potentiel de l'autre objet nous tomber dessus, à ce moment-là, on oublie ces conditions initiales très rapidement, et dans ce cas-là, on pense que c'est pour cette raison que les galaxies elliptiques sont très lisses, malgré leur poussière ici et leur jet là. Alors après la friction dynamique, bon, je vais en parler très rapidement. Donc imaginez que je suis maintenant une particule massive et que je me promène dans ma mer de particules de faible masse. Ce qui va se passer, c'est que dans mon référentiel, les petites particules vont passer de devant moi à derrière moi, parce que j'ai une vitesse. Mais les particules à ma gauche vont partir à ma droite parce qu'elles vont être déviées par ma masse, et les particules à ma droite vont partir vers ma gauche. Donc, quelque part, elles vont se concentrer derrière moi plus qu'elles ne le sont devant moi. Et donc, cela, ça fait la friction. Alors, il y a une illustration très jolie qui date d'il y a 19 ans, là, où on voit une galaxie secondaire tomber sur une galaxie primaire. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement on voit qu'il y a plus de particules derrière que devant, mais en plus, il y a un vide qui se crée devant parce que la primaire réagit à la présence de la secondaire à cause des marées que la secondaire fait subir à la primaire. Et donc, ce qui renforce la friction dynamique. Donc, le temps de friction dynamique, Chandra Sarkar l'a montré sous une forme complexe que je vous montrerai tout à l'heure, et ce temps de friction dynamique va à peu près comme le rapport de masse primaire sur secondaire sur son log fois le temps dynamique. D'accord ? Donc là, ça peut être important quand vous avez, par exemple, un rapport de masse 10, voire moins, 3, 5, 10, à ce moment-là, ça peut être très court. Alors après, je vais un peu sauter ça, mais on peut montrer que les formes des orbites sont conservées lors de la friction dynamique, parce que on peut ici, il y a circularisation au péricentre et il y a décircularisation à l'apocentre, et les deux phénomènes se compensent, et donc on a les orbites stables. Et donc j'en viens aux marées parce que le temps presse. Donc qu'est-ce que c'est qu'une marée ? Une marée, c'est tout simplement la différence entre les forces que je subis la force que je subis moins la force que subit mon système. Donc on est très au courant des marées que la Lune fait subir sur la Terre. Donc si je regarde les océans côté Lune, l'océan sur la Lune subit une force de gravitation qui est plus forte que la Terre entière, qui est centrée sur son centre, parce que les océans de ce côté-là sont plus proches. Donc le 1 sur R carré est plus fort, et donc vous avez une marée haute côté Lune. Bon. Mais de l'autre côté de la Terre, les océans sont moins attirés par la Lune que ne l'est la Terre globalement. Et donc vous avez une marée haute dans l'autre sens, ce qui fait qu'on a deux marées par jour. Bien. Alors on peut faire des calculs sur les forces de marée, et on peut les exprimer sous forme de... Au fait, on peut montrer que au premier ordre, le rayon de marée, c'est un rayon où la densité moyenne est égale à celle du perturbant jusqu'à là où est notre position. Donc c'est encore un critère de densité moyenne. On retrouve souvent des densités moyennes qui sont eux-mêmes liées à des critères de temps ou de fréquence selon la façon dont vous analysez le problème. Alors la Lune, elle est verrouillée en phase par rapport à nous. Donc la Lune subit un effet, une marée encore plus forte par la Terre que la Terre ne subit par la Lune. Et quand on est verrouillé en phase, bon, il faut ajouter des termes non inertiels, le centrifuge, si vous voulez, et on peut montrer que, dans le cas d'une masse ponctuelle comme la Terre par rapport à la Lune, on peut montrer que la marée, elle est extensive, donc elle va vouloir étirer la Lune vers l'extérieur. Par contre, quand vous avez une marée irrotationnelle, ce qui est le cas général, à ce moment-là, et ça dépend de la pente du profil de densité en fonction de la distance, R. Et donc, pour le cas ponctuel, c'est moins 3, et pour le cas homogène, c'est 0. Et dans le cas Navro, Frank et White, c'est entre 1 et 3. D'accord ? Et donc, on voit là que on a une partie de la marée qui est compressive, et au centre des halos de matière noire, on pourrait même dire que les petits sous-halos ont une marée compressive partout. Ce qui retarde un peu les effets de marée, parce que les particules doivent traverser le système avant de sortir, mais sinon, elle est là quand même, cet effet de marée. Il est là encore, cet effet de marée. Alors bon, les marées, on les voit dans les collisions de galaxies, ça dure quelques milliards d'années, et donc on voit là les queues de marée, comme Françoise en parle souvent, elle a raison, c'est très important. Et je ne peux pas m'empêcher de vous montrer ces photos-là, de cette occasion unique qu'on a eue il y a maintenant 24 ans, si mon calcul est bon, ça semble hier, où une comète s'est approchée trop proche de Jupiter, elle a pénétré son lobe de roche, qui est le rayon où les marées de Jupiter deviennent extrêmement forts, pour pouvoir casser la comète. Et donc la comète a été cassée en une douzaine de morceaux, et on les a observés avant qu'elle ne frappe le Jupiter, et après elles ont frappé Jupiter et ont laissé des marques sur Jupiter. Alors après, donc, il y a tout le débat sur les effets des marées sur la friction dynamique. Donc, je répète un peu ce que tu as dit, Françoise, même si je le comprends moins bien que toi, je pense. Si on applique la formule de friction dynamique naïvement, on trouve que si les marées font diminuer la masse de la secondaire, ça va augmenter le temps de friction dynamique. Mais si on considère la déformation de la déformation de secondaire, ça veut dire que la secondaire, elle acquiert, il faut de l'énergie pour la déformer. Et cette énergie va être prise sur son énergie interne mécanique, qui est négative parce qu'elle est liée. D'accord, c'est la convention. Et donc, l'énergie restante va être... Donc, l'énergie orbitale plus l'énergie interne étant constante, si vous augmentez l'énergie interne, vous allez diminuer l'énergie orbitale et vous allez rendre le système encore plus lié. Et donc, vous allez avoir une friction dynamique plus courte et pas plus longue. D'accord ? Donc, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, Françoise a dit, par exemple, que c'est plutôt vers la fin du déclin orbital que l'effet masse commence à jouer. Et ça va dépendre aussi de la forme de l'orbite et de la concentration de la masse secondaire. C'est quelque chose qui est compliqué et à ma connaissance, ce n'est pas bien encore compris. En tout cas, on sait que les orbites sont typiquement allongées dans les simulations cosmologiques avec des rapports entre l'apocentre, c'est-à-dire la plus grande distance, et le péricentre, donc la plus petite distance, donc séparation, de l'ordre de 6 fois ou divisé par 2, pour un écart type à peu près. Donc la force de marée va être impulsive comme ça au péricentre et va être très faible aux autres moments. Donc si vous voulez calculer les effets de marée, il faut moyenner sur l'orbite, ce qu'on peut faire soit au dos d'une enveloppe en trichant un peu, parce que ça donne des lois d'échelle très importantes, ce qu'on appelle l'approximation impulsive, soit en faisant le calcul proprement, en faisant l'intégrale numérique. Alors maintenant, je vais vous parler de fusion, parce que j'ai du retard. Il y a trois types d'interactions entre galaxies. Il y a les fusions après déclin orbital dû à la friction dynamique. Donc voilà, vous avez une galaxie qui tombe sur la galaxie grosse qui est dans les groupes assez massifs et généralement elliptiques, et celle-là est une spirale. Vous avez des fusions directes entre satellites, généralement, et puis vous avez des rencontres rapides entre satellites qui ne donnent pas lieu à fusion parce que les vitesses sont trop grandes. Françoise a mentionné que dans les amas de galaxies, par exemple, l'écart type de vitesse est de l'ordre de 700 km/s, c'est beaucoup plus grand que les dispersions de vitesse internes, et donc on a beaucoup de mal à... Il n'y a pas assez de friction dynamique durant la rencontre pour pouvoir créer des fusions. Alors, j'ai essayé de calculer en 92 et en 2000 quel est le taux de fusion directe majeur en fonction de la masse du groupe et de l'amas. D'accord ? Donc, c'est très facile à faire. Donc, le taux de collision, c'est simplement la densité en nombre fois le volume que voit un système qui a une vitesse. Donc le volume par unité de temps, c'est la vitesse fois l'intervalle de temps. Et donc vous faites ce calcul, on trouve ce produit de densité section efficace fois la vitesse. Tiens. Et donc on peut faire ça pour les fusions parce que les simulations nous indiquent quelle est la section efficace et comment est-ce que, de fusion et comment est-ce qu'elle varie avec la vitesse. Donc en 92, j'avais fait un calcul analytique et j'avais trouvé, assez surpris d'ailleurs, que il y avait un joli comportement aux grandes dispersions de vitesse des systèmes, donc les amas si vous voulez, et ça se comportait comme 1 sur la dispersion de vitesse au cube. Après 5 ans après, il y a eu deux articles intéressants et un autre article qui a fait le calcul analytique avec une mauvaise section efficace, trop simpliste, mais ils ont évité une erreur que j'avais faite moi, qui est que j'avais négligé ce qu'on appelle la focalisation gravitationnelle, et eux, ils l'ont pris en compte. Par contre, ils ne l'ont pas exprimé de la même façon que moi et que la troisième étude. Donc la troisième étude, c'est une étude numérique, et ils n'étaient pas au courant de mon travail, mais eux et moi ont fait la même normalisation en fonction des paramètres de la galaxie, des galaxies. Et donc, l'autre, je me suis permis, donc la courbe hachurée due aux Ukrainiens, Krivitsky et Kantorovitch, donc je me suis donné la liberté de la faire varier suivant l'axe des Y, là, pour qu'elle colle aussi bien que possible aux simulations, et elle colle très bien, donc c'est très impressionnant. En tout cas, tout ça pour dire que pour les amas, on a le comportement en 1 sur dispersion de vitesse au cube. Là, il y a un accord d'ailleurs entre mon modèle et les simulations à mieux que 10%. Et donc, ça veut dire que le taux de fusion majeur va comme la masse du sous-halo sur la masse du halo, parce que les masses en cosmologie vont comme les dispersions de vitesse au cube. Bien, alors voici maintenant le slide le plus mathématique, donc je m'excuse auprès de ceux qui n'aiment pas les maths, vous pouvez fermer les yeux, mais là je fais une comparaison entre l'inverse du temps, donc le taux TAUX de friction dynamique, c'est un peu la formule qu'a montré Françoise, mais à l'envers, et le taux de fusion directe. Et ce qu'on peut montrer, c'est qu'on peut exprimer ces taux en fonction de la masse avec des fonctions sans dimension de la masse ou du rapport de masse entre la masse inclue dans le rayon et la masse du sous-halo, ici et là. Alors, pour la friction dynamique, il y a une équipe chinoise qui a fait une très belle étude sur des simulations hydrodynamiques et qui a trouvé une relation simple. Pour les fusions directes, il y a une relation qui est pas très compliquée non plus. Et donc, quand on fait le calcul, on peut comparer comme ça le taux de destruction par fusion directe ou frictionnelle, hein, après friction dynamique, en fonction de la masse, du rapport de la masse du sous-halo sur la masse du halo, et pour différentes positions des galaxies dans leur halo. Et on peut voir que, aux grandes masses, le taux de destruction est beaucoup plus grand par friction que les fusions directes, et à petite masse, ça devient plus comparable. Bien. On peut aussi regarder l'importance des fusions de galaxies par des modèles très simples basés sur la cosmologie. Donc on peut faire des simulations cosmologiques de matière noire auxquelles on croit à la gravitation de la matière noire, on croit à ces simulations, et puis après on peint les galaxies dessus, non pas avec un modèle semi-analytique, mais avec un modèle analytique où la masse des étoiles est une fonction de la masse du halo et de l'époque à laquelle on regarde, du redshift. Et cette fonction n'est pas prise aléatoirement, c'est en prenant en compte différents effets astrophysiques comme les supernovas, etc. Bien, donc c'est un travail que j'ai fait avec Andrea Cattaneo de l'Observatoire de Paris. Et là, on montre les résultats sous forme de la masse stellaire aujourd'hui en fonction de la masse du halo haute aujourd'hui, en log-log. Et ce qui est intéressant de voir, il y a plusieurs choses intéressantes. D'abord, on voit que vous avez deux espèces de galaxies. Il y a une espèce de la grande masse qui sont les galaxies les plus massives, si vous voulez, de leur groupe, qu'on appelle centrales, même si elles ne sont pas toujours centrées. Et puis, vous avez les galaxies satellites qui sont en dessous, et d'ailleurs, il y a même un gap entre les deux. Bien. Voilà, donc il y a un lien avec la masse. Et ce lien avec la masse va nous permettre de mesurer statistiquement la masse d'un halo d'une galaxie centrale. D'accord ? Et comment est-ce qu'on fait ? Il suffit de dire, puisqu'il y a une dispersion assez faible entre la masse du halo et la masse stellaire, on peut dire, ben voilà, les galaxies les plus massives en étoiles vont avoir le halo le plus massif, et la deuxième galaxie la plus massive va avoir le deuxième halo le plus massif, ainsi de suite. Donc, ce qu'on appelle le abundance matching en anglais. Donc, on fait l'égalité des fonctions de répartition. D'accord ? Et donc, c'est une technique puissante dont je discuterai après. Sinon, on voit que les galaxies massives qui sont là ont des gros points, et les gros points veulent dire qu'elles ont assemblé la plupart de leur masse par fusion. Et quatrièmement, on voit que les galaxies d'amas, alors c'est un modèle très simple, on ne connaît pas leur morphologie, on ne sait pas si ce sont des galaxies elliptiques ou spirales, mais on sait par les observations que ce sont à plus de la moitié des galaxies elliptiques. Et ce qu'on voit dans cette simulation, c'est qu'il y en a quelques-unes qui sont formées principalement par fusion, mais la plupart ne le sont pas. D'accord ? Alors, on peut mettre ça sous forme de on peut quantifier cela, et donc on peut regarder quelle est la fraction de galaxies, quelle est la fraction de masse acquise par fusion, moyenne, en fonction de la masse stellaire des galaxies aujourd'hui. Et on voit que plus on augmente la masse, plus on voit que l'effet des fusions est important, et sachant que si ce n'est pas par fusion, c'est par accrétion de gaz. Bien. Alors maintenant, on peut aller un peu plus loin et on peut essayer de le prédire. Pourquoi avoir fait ces simulations quand on peut le prédire au dos d'une enveloppe ? Donc, voilà un travail que je n'ai pas publié, malheureusement, mais bon, il faudrait que je le publie un jour. Donc, pour faire cela, on peut supposer que le taux de fusion est égal à la fonction de masse des structures, non pas en moyenne dans l'univers, mais au rayon du Viriel. Et on va dire, voilà, à partir du rayon de Viriel, on sait combien de temps ça prend pour tomber par friction dynamique. Et donc, je vais dire que le taux de fusion, c'est égal à la densité d'objets de cette masse au rayon de Viriel divisé par le temps de friction dynamique pour cette masse. Et je peux le faire sur les halos, et je peux après le faire sur les galaxies par abundance matching, puisque je sais faire le lien entre les halos et les galaxies. Et alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est le 1 sur mdm dt, qui est donc le taux de croissance de masse. C'est ça le point important, plutôt que le nombre de fusions par unité de temps qui m'intéresse moins. Alors, il se trouve qu'une équipe qui s'appelle Farouri et al. ont quantifié sur des simulations de matière noire les taux de fusion des halos, et par mon approche, qui est en assuré, là, je retrouve une solution qui n'est pas très loin de la leur. Mais après, quand j'applique, donc je peux appliquer l'abundance matching soit à ma solution, soit au leur. Et quand je fais ça, c'est les courbes en bleu, je trouve à peu près le même résultat, qui est que l'importance des fusions, la croissance de masse par fusion majeure, ou mineure, et c'est les deux là, est seulement importante aux grandes masses. Bien. Après, on peut aller plus loin, on peut se poser la question, quel est le rôle des fusions majeures et des fusions mineures. Alors, on peut regarder, dans la simulation précédente que j'avais faite avec Cataneo, on peut voir, est-ce qu'on envoyait plutôt des fusions majeures ou mineures, et on voit qu'aux grandes masses, c'est plutôt des majeures, donc on voit que... alors, ça dépend comment on définit les majeures, si c'est de 3-1 à 1-1 en rapport de masse, ou 5-1 à 1-1, mais suivant le cas, c'est plus de la moitié de la masse acquise. Alors qu'à petite masse, déjà... À petite masse, je vous avais dit qu'on n'acquiert pas beaucoup de masse par fusion, mais en plus, le peu de masse qu'on acquiert par fusion, c'est plutôt par des fusions mineures. D'accord ? Maintenant, est-ce qu'on ne pouvait pas le prédire ? Alors, j'applique de nouveau mon modèle. Alors, bon, je vous fais exception des mathématiques derrière. Donc, avec Farouri, il peut le prédire directement sur les halos, parce qu'elle l'a mesuré. Et il n'y a pas beaucoup d'effet. Avec mon modèle simple, je trouve quelque chose un peu différent, mais il n'y a pas beaucoup d'effets, mais c'est un peu plus haut. Par contre, quand je fais la balance matching de son modèle ou de mon modèle sur les galaxies, je trouve un comportement qui ressemble un peu au Cataneo, dans le sens qu'il y a une masse optimale, environ 10 puissance 11 masse solaire, où j'ai des fusions majeures, où j'acquiers ma masse, la masse acquise par fusion et par fusion majeure. En dessous, c'est quand même important, les fusions majeures, d'après mes modèles. Donc, les fusions majeures dominent partout, finalement. Sauf pour les très, très grandes masses, parce que les très grandes masses n'ont pas de partenaire avec qui fusionner majeur, parce que la fonction de masse stellaire les diminue très, très rapidement à grande masse. Bien. Alors après, on peut parler de l'évolution non sphérique. Donc ça, c'est pas moi, je suis très sphérique comme personne, donc c'est pas mon travail, mais c'est très intéressant, donc je vous le montre rapidement. Donc l'idée, c'est que les perturbations initiales de densité ne sont pas sphériques, mais ce sont des sphéroïdes triaxiaux qui ont donc trois axes, et donc ils vont s'effondrer sur l'axe le plus petit d'abord, et ça pourrait créer des nappes. Après, je vais vous montrer que ce schéma n'est pas très bon, hein, mais bon. Et après, la nappe elle-même, elle va s'effondrer d'abord sur l'axe le plus petit, ça va donner un filament, et puis le filament peut être en expansion, sera en expansion dans un sens, mais il est en équilibre sur l'échelle la plus petite. Là, quand on regarde les simulations, ce n'est pas ça ce que l'on voit. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des vides qui se rentrent dedans. Okay, et entre les vides, il y a des nappes, forcément. Mais simplement, les gros vides partent de sous-densité plus faible et donc s'accroissent plus vite. Elles ont une densité, elles voient une sorte de gravitation négative, donc elles sont en plus forte expansion et donc elles vont faire pousser les petits vides, ce que j'ai montré avec les flèches bleues là. Et donc, ça va créer des vitesses pour les nappes et de temps en temps, ces nappes de matière vont avoir, comme dans ce cas-là, et là il y a un filament, ce que j'ai mis en rose, vont avoir un moment angulaire, donc ils vont donner du spin au filament. Et ce spin au filament, comme l'ont très joliment montré Christophe Pichon et son équipe d'étudiantes, Sandrine Codis, etc., elles ont remarqué dans les simulations, et elles l'ont après modélisé, que les galaxies spirales peu massives ont un spin qui est typiquement avec un vecteur aligné avec le filament, comme prédit par ce modèle extrêmement simple. Puis après, qu'est-ce qui se passe ? Ben, ces deux galaxies spirales vont peut-être fusionner, mais elles ne vont pas se fusionner directement, elles vont se manquer un peu, et donc elles vont acquérir un moment angulaire perpendiculaire. Alors là, je l'ai mal dessiné parce que je ne pouvais pas très bien dessiner perpendiculaire à l'écran. Voilà, ça c'était perpendiculaire à l'écran, ce vecteur, et donc les galaxies elliptiques ont un spin perpendiculaire au filament. En pratique, l'effet est extrêmement faible, donc c'est un effet de quelques pourcents sur les cosinus des angles de spin. Okay, mais elles ont vu une légère prépondérance pour les spins alignés avec le filament pour les galaxies peu massives et le contraire pour les galaxies massives. Bien, alors l'effet d'hydrodynamique, comme je vous ai dit, c'est que l'hydrodynamique est dissipative et contrairement, si vous prenez deux boules de matière noire, elles se traversent, mais si vous prenez deux boules de gaz, elles s'arrêtent, il y a un choc, elles chauffent, elles s'expandent, et puis après, elles émettent du rayonnement. C'est extrêmement compliqué. Et pire, après, donc, vous avez toute la rétroaction de l'astrophysique qui fait que parmi les étoiles qui se forment, celles qui font plus de 8 masses solaires vont exploser en supernova. Ça, on ne peut pas y couper. C'est comme ça. Et ce sont des énergies qui sont comparables à l'énergie de liaison d'une petite galaxie. Et puis, vous avez les noyaux actifs au centre des galaxies où il y a des trous noirs supermassifs au centre qui pèsent à peu près 1/1000 de la masse du bulbe. Et qui vont jeter des jets relativistes qui vont avoir un effet très important. Bon, je n'ai pas le temps d'en parler trop. Quelle heure il est ? Je voudrais terminer dans les 5 minutes. Donc, orbite des galaxies dans les groupes. Donc, on peut définir 3 types d'orbites. Alors, vous pouvez imaginer que les galaxies qui tombent dans un amas, elles vont tomber la première fois. Alors, j'appelle ça infall. Puis elles vont rebondir. Et quand elles rebondissent, c'est qu'elles sortent hors de l'amas. On va les appeler backsplash, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, et puis après, elles vont finir par se situer dans l'amas, et pendant ce temps, l'amas, il grandit en taille. Il grandit en taille tout simplement parce que la densité de l'univers diminue, et comme l'amas est défini par rapport à la densité moyenne de l'univers, eh bien, il augmente en taille. Alors, j'ai essayé de le montrer là, donc vous avez un diagramme de phase avec la vitesse radiale en 3D, et là, la distance au centre en 3D, et donc vous avez l'infall là qui arrive là à vitesse négative hein, puisqu'elle tombe et puis après ça rebondit ici et puis après ça atteint une distance maximale, ça retombe et puis après ça retombe plein de fois et ça finit par s'équilibrer avec la distribution des galaxies d'amas, ce qu'on appelle le virialisé. Donc ça fait 3 classes, backsplash, infall, backsplash et virialisé. Alors quelle est la distance maximum de backsplash? Alors au début on a dit que c'était en raisonnant avec les mains c'était de l'ordre de 2 rayons de Virial. Moi, je l'ai montré de façon plus rigoureuse et Gilles et Tal, après, l'ont vérifié sur simulation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'analyse que je vous ai montrée tout à l'heure sur les profils de densité, on voit un petit kink là dans la distribution de densité et quand on regarde les résidus, on voit qu'il y a quelque chose ici, une sorte de coupure Et cette coupure correspond précisément au rayon de backsplash. Et j'ai refait cette figure, celle-là, en étant un peu plus libéral sur mon choix de galaxie, loin du bord, etc. Et il y a une coupure très nette d'un facteur, je crois que c'est 3, sur la densité surfacique du nombre de galaxies. Bien. Alors maintenant, quand on essaie de mesurer les orbites, ce n'est pas facile parce qu'on ne voit pas les 6 dimensions de l'espace de phase. On voit que la position sur le ciel, qu'on réunit à une distance au centre projetée sur le ciel, et les vitesses lignes de visée. Donc là, je vous montre ce diagramme de phase d'espace observable. Et à partir de ce diagramme d'espace observable, une bonne technique est d'ajuster la distribution de ces traceurs du potentiel par des modèles. D'accord ? Donc c'est ce que je fais avec... j'ai un code rapide qui s'appelle MAMPOST qui le fait très rapidement au moyen de quelques hypothèses dont on peut discuter, mais qui marche très bien quand on fait des tests sur des simulations. Et donc là, un travail qu'on est en train de préparer sur l'anisotropie des vitesses, donc la dispersion de vitesse radiale divisée par la dispersion de vitesse tangentielle. Donc plus c'est haut, plus c'est radial, et 1 c'est isotrope, et en dessous de 1 c'est plutôt circulaire. Et donc là, pour la première fois, on sépare en spirale, elliptique et lenticulaire. Et donc ce qu'on trouve, c'est qu'à l'extérieur, à l'intérieur, c'est à peu près tous à peu près isotropes, mais à l'extérieur, au-delà du rayon de Viriel, les données semblent indiquer que les spirales sont sous des orbites radiales et les elliptiques plutôt sur des orbites isotropes et les lenticulaires intermédiaires. Et on est en train de réfléchir aux causes de cela. Bien. Il me reste 2 minutes, donc je vais sauter les slides suivants, là. Je n'ai pas le temps d'en parler. Simplement, je vais vous montrer le dernier slide, là, de cela. Ah, mince. Je vais quand même vous montrer celui-là. Donc ici, on peut regarder dans les galaxies en interaction dans le relevé SDSS. On les connaît parce qu'ils ont été identifiés à l'œil. Et donc, on peut mesurer quelle est la fraction de galaxies qui sont la moins massive des deux dans une paire qui est détectée dans le SDSS. D'accord ? Parmi toutes les galaxies. Donc, quelle est la fraction de galaxies qui sont des interacteurs secondaires ? Alors, il y en a dont l'autre est la centrale du groupe, et certaines où l'autre est la satellite, et le satellite. Et ça dépend de la position, et ça dépend du rapport de masse sous halo, masse de halo. Et donc, j'utilise la balance matching pour peser le sous halo. Et après, on peut comparer au modèle Chandrasekhar et à mon modèle fusion directe, et on voit que le Chandrasekhar marche pas mal, c'est à peu près le même aspect, ici, là, pour les courbes hachurées et pointillées, un facteur 3 près, et par contre, les fusions directes à un facteur 3 près peut-être aussi, mais seulement aux régions extérieures entre 0,5 et 1 rayon de Viriel. Par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a un excès de galaxies en interaction au-delà du rayon de Viriel qui ne sont pas dans les modèles et qui sont dus aux flybys. D'accord ? Donc les conclusions sont que la gravitation joue un rôle prédominant à grande échelle et jusque dans les groupes. Dans les galaxies, il y a l'hydrodynamique, il faut faire attention. Ce rôle prédominant, ce n'est pas seulement l'attraction, c'est aussi les marées, la friction dynamique, les fusions. Donc la physique dissipative du gaz est très compliquée, donc elle domine les régions internes des galaxies. Elle joue un rôle important dans les zones externes des galaxies et même elle commence à jouer un rôle au niveau des groupes de galaxies. Voilà. L'évolution dynamique peut se comprendre par des observations, mais aussi par des calculs analytiques simples, j'espère vous l'avoir montré. Mais c'est vrai que les simulations numériques nous donnent quand même une vision bien plus précise. D'accord ? Donc nous vivons aujourd'hui dans un âge d'or où les simulations numériques, avec des milliards de particules et avec des milliards de cellules de gaz ou des milliards de particules de gaz, ils sont devenus publics et ce sont des mines d'or sur lesquelles on peut essayer de comprendre ce qui se passe dans l'univers. Même s'il ne faut jamais croire à 100% ce que nous disent les simulations, parce qu'après il en arrive une autre qui dit des choses un peu différentes. Bon, donc les galaxies massives acquièrent leur masse par fusion, les galaxies peu massives par accrétion, que les galaxies en interaction, c'est donc fusion après friction dynamique dans les régions intérieures, ou dans les régions externes, c'est peut-être les fusions directes, et encore, ça se discute. Et puis, je pense que c'est plutôt les rencontres rapides qui vont dominer dans les régions externes des amas et au-delà. Alors, les perspectives, je saute ça, c'est trop compliqué. Eh bien, je voudrais parler des perspectives, je vais terminer, ça c'est mon dernier transparent, sur les perspectives observationnelles. Alors, au niveau de l'évolution des grandes structures, on a plusieurs télescopes qui vont faire de l'imagerie extrêmement précise sur quasiment tout le ciel et qui vont nous permettre de voir, elles vont être tellement profondes qu'elles vont voir l'évolution des corrélations des galaxies avec le temps, par exemple, et ça va nous contraindre les modèles de déviation par rapport au spectre primordial de densité qui est le lambda CDM, et aussi à tester les modèles de gravitation modifiée. Après, avec les télescopes comme le Extremely Large Telescope et avec le radiotélescope SKA, on va mesurer tellement précisément les redshifts qu'on va pouvoir, 10 ans après, les remesurer et voir des différences. Donc on va pouvoir, comme cela, mesurer des accélérations des particules pour la première fois. Et donc, avant, on travaillait qu'avec les vitesses au niveau observationnel. Maintenant, on va avoir les accélérations, c'est beaucoup plus parlant. Troisièmement, avec des cartes très profondes de l'univers local, un peu comme Françoise a montré la semaine dernière, je suis venu un peu en éclaireur pour voir. Donc il y a les magnifiques cartes de galaxies avec des images extrêmement profondes, montrent des coquilles, des effets de marée qui étaient insoupçonnés avant, parce que souvent ce sont des galaxies elliptiques, comme a dit Françoise la semaine dernière, qui montrent des queues de marée et des choses comme ça. Et quatrièmement, avec le télescope Gaia qui a été lancé il y a quelques années, il va y avoir un data release en avril à laquelle vont suivre des articles, ça va être une révolution au printemps 2018, pour comprendre beaucoup de choses sur la structure de la Voie lactée, mais aussi sur l'histoire de l'historique de l'assemblage du groupe Voie lactée. Et donc, c'était un peu un de tes premiers transparents, Françoise, où on voyait ces tidal streams, ces courants de marée. Et on va pouvoir comprendre un peu mieux ce qui se passe, parce que Gaia a une vision 6 dimensionnelle, donc on voit les choses très bien. Le seul problème, c'est qu'elle voit bien à 6 dimensions jusqu'à à peu près 3 fois l'épaisseur du disque de la Voie lactée, donc 1/8 de la distance au centre de la Voie lactée, soit 1 kiloparsec. Mais quand même, l'avenir est radieux. Nous vivons dans un monde où les télescopes continuent de se construire et où les simulations numériques continuent de faire des progrès incroyables. Je vous remercie.